j'aborde les nouveautés culturelles, plus particulièrement celles de la ville de Québec. Attendez-vous à beaucoup de musique émergente, des entrevues, des chroniques et des réflexions sur les principaux enjeux culturels. Votre rendez-vous culturel, c'est à tous les mercredis sur les ondes de Chiz 94.3 de 14h à 15h.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Queridos amigos, ces temps inestables qu'on vit tous, Radio Futura n'est pas épargné. Malgré tout cela, on va essayer de terminer en beauté le 31 décembre à partir de 22h30 pour dire hasta la vista 2022. Hola 2023, oui, c'est là. On sera jusqu'au 30 de l'année 2023. Bienvenido 2023.
Las campanas de la iglesia están sonando.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
Oui, bonjour, bonjour. Bienvenue à Conduite Antisportive avec Shannon Duff à Chiz 94.3. Je suis content d'être de retour avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la semaine passée, mais j'ai eu un invité, j'ai eu un champion de la Coupe Vanier. Donc, on a principalement parlé du football universitaire et de son expérience la dernière fois. Donc, aujourd'hui, vu que je suis seul, je vais pouvoir reparler de la NFL. Il y a plus de contenu à dire vu que je suis parti comme deux semaines sans vous parler justement de ça. Puis, il y a beaucoup d'actions justement en fin de saison normalement. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, puis... Puis je vais commencer avec la partie d'hier. Les Buccaneers ont battu les Saints de peine et de misère. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que l'arrivée de Tom Brady à Tampa Bay, on dirait que les Saints, c'est la kryptonite de Tom Brady. Il y a toujours beaucoup de difficultés, peu importe le talent ou comment la saison des Saints vont. Mais ils ont pu s'en sortir, puis ça va leur faire du bien, puisque... même si leur division est assez médiocre, encore une fois, c'est une victoire importante pour eux. Puis, dès qu'ils rentrent dans les playoffs, moi, je pense qu'ils vont quand même être favoris, puisque avec Tom Brady, on ne sait jamais, malgré que les autres divisions, ils vont avoir les champions des autres divisions vont avoir un meilleur record. Aussi, une autre nouvelle importante qui s'est passée dans le monde du football cette semaine, c'est que Baker Mayfield, l'ancien corps des Browns de Cleveland, a été lâché par sa nouvelle équipe qui a essayé cette année, qui a été changée, les Panthers. Puis ça montre que peut-être que les Browns, malgré toute la controverse qui entoure leur nouveau carrière, qui a joué sa première partie... en fin de semaine, justement, que peut-être qu'ils ont vu quelque chose en Baker. En fait, ils ont vu des lacunes dans Baker que les analystes et tout le monde n'avaient pas vu. Puisque si tu te fais laisser aller par les Panthers qui leur... qui, eux, leur corps arrière laisse à désirer, justement, et tu te fais laisser aller par ça, c'est qu'il y a quelque chose qui marche vraiment pas. C'est sûr qu'il faut prendre en compte que Baker Mayfield a quand même un contrat assez... assez volumineux pour ce qu'il apporte à l'équipe. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui entre en jeu. Puis, il y a beaucoup d'hypothèses qui peuvent se faire avec où il va aller. Est-ce qu'il va se faire signer, en fait, justement, avec ce gros contrat-là? C'est sûr que avec la... Moi, ce que je pense à première vue, c'est que je pense qu'il serait une bonne option pour les 49ers qui, eux, sont... Ils sont bien partis pour faire les séries. Ils ont quand même une bonne avance dans leur division. Et puis, ils ont une bonne équipe aussi. Mais en fin de semaine, justement, ils ont perdu leur corps arrière. Leur corps arrière qui était partant, Jimmy Garoppolo. Une blessure à la cheville ou au genou, on ne sait pas encore. Et puis, il est terminé pour la saison. Donc, ils ont perdu leur Trey Lance au début de l'année, 49ers. Et ensuite, ils ont perdu Jimmy Garoppolo. Donc, c'est le troisième corps arrière qui est fun fact, qui est Mr. Irrelevant, ça veut dire qu'il a été pris le dernier choix de la dernière, du dernier repêchage, qui a quand même bien fait la dernière partie contre les Dolphins, mais c'est sûr que déjà avec Jimmy, il y avait des doutes de comment il allait pouvoir performer en playoff, malgré que Garoppolo, même si ses stats sont quand même bons, même s'il est très conservateur. Et puis, il gagne tout le temps, donc ça affiche très positif. Mais là, avec le troisième carrière, il y a beaucoup de questions à se poser. Est-ce qu'ils vont essayer de rouler avec lui ou bien ils vont justement aller chercher quelqu'un qui est agent libre, comme peut-être Baker Mayfield, qui n'a pas vraiment d'expérience. En fait, il a joué deux parties de série quand il était à Cleveland, mais là, je ne sais pas si avec ce qu'a montré Stana Caroline que c'est un risque à prendre avec le salaire qu'il a. Mais bon, ça pourrait débattre longtemps. C'est sûr qu'à ce temps-là de l'année, il y a beaucoup moins d'options. Il faut faire attention quand on va chercher des agents libres puisque c'est beaucoup de pression qu'on leur met dessus, surtout au poste de corps arrière partant. C'est sûr que les blessures font partie du jeu, mais là, c'est d'où l'importance d'avoir toujours plusieurs carrières auxquelles tu as confiance. Puis donc, quand des choses comme ça arrivent pour les 49ers, mais ils ne se ramassent pas comme un des favoris du Super Bowl à maintenant être une des équipes qu'on va avoir le moins confiance quand ils vont rentrer dans les playoffs. S'ils le font, peut-être que... C'est sûr qu'ils sont bien partis, mais peut-être que s'ils auront une grosse série de défaites là, avec le nouveau carrière. C'est sûr qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Puis, parlant de ce game-là, les 49ers ont quand même gagné justement avec le troisième carrière qui a joué la majorité de la partie contre les Dolphins. Les Dolphins qui est une très bonne équipe. C'est sûr que Jalen Waddle, un de leurs meilleurs receveurs, n'a pas joué. Mais puis, il avait une très bonne série dans les derniers matchs. Ils jouaient très bien, les Dolphins. Et ils ont perdu contre les 49ers. C'est quand même une bonne partie. Toi, joué une de ses pires games de l'année, en fait, d'après moi. Mais c'était pas si pire que ça. Puis, c'est la première fois que justement, cette année, que toi perd quand il joue toute la partie. En fait, il n'a pas joué techniquement toute la partie. Il s'est blessé en fin de match, là, mais la partie était déjà quand même finie. Puis, justement, ça, ça prouve que je pense pas que les 49ers sont une meilleure équipe que les Dolphins, mais le coach des Dolphins, c'est Mike McDaniel, qui était justement le coordonnateur offensif l'année passée des 49ers qui ont bien fait avec Deebo Samuel, justement, en porteur de ballon. Et puis, ils sont allés loin dans les séries. Ils ont passé proche de battre les Rams en finale de conférence. Donc, je pense que c'est sûr que ça a joué un effet sur cette partie-là. Parlant des Rams, justement, encore une défaite pour eux. En plus, contre les Seahawks, c'est une partie de division. Je pense que leur saison est officiellement finie. C'est sûr que de perdre Stafford puis Cooper Kupp, ça fait très, très mal. Mais là, c'est vraiment pitoyable. Et puis, ils n'ont pas de choix au repêchage, comme j'ai mentionné dans des émissions précédentes. Donc, j'ai vraiment Je me questionne vraiment de c'est quoi le futur pour eux, en fait. Surtout que le futur de Sean McVay est très incertain et puis que les signatures des gros joueurs comme Aaron Donald et tout ont été faites justement parce qu'il était dans une position de gagner maintenant. Et là, ils ne le sont pas. En tout cas, cette année, peut-être qu'ils croient encore à leur équipe l'année prochaine quand il y aura plus de joueurs qui sont en santé. Et puis les Seahawks, ça leur fait du bien après quelques matchs difficiles. Je me questionnais beaucoup de savoir si on voit les Seahawks qu'on s'attendait de voir au début de l'année qui allaient avoir de la misère avec la perte de Russell Wilson et avec Geno Smith ou bien Drew Luck. C'est sûr que là, Geno Smith joue quand même assez bien. Puis c'était quand même une game serrée. Là. Les Rams se sont bien battus, mais là, une victoire, c'est une victoire pour les Seahawks qui s'approche beaucoup des 49ers. Là. Ils leur mettent un peu de pression justement avec un troisième quart arrière là, comme partant. Donc c'est sûr que pas tout est joué dans cette division-là. Et puis pour le moment, je sais pas si c'était encore. C'est encore vrai, mais la dernière fois, j'avais. En tout cas, avant les parties dans la fin de semaine. Les trois wildcard spots, ça veut dire les spots de série qui ne sont pas les équipes qui gagnent leur division étaient toutes dans la NFC East, dans le fond de la division des Eagles. En fait, les Eagles seraient le champion de division et les trois wildcards seraient Cowboys, Giants et les Commanders. Donc, ça veut dire que ça, les trois autres divisions dans la conférence NFC seraient justement juste les gagnants de division. Donc, d'où l'importance de gagner sa division, même si le record peut être un peu moins bon que justement des spots de wild card. D'où pourquoi c'est une victoire importante pour les Seahawks. Et puis, le corpus de receveurs joue assez bien. Tyler Lockett et DK Metcalf font assez de prouesses malgré le changement de carrière et tout. Donc, ça, c'est une game très importante. En plus, c'est une game le fun à regarder. Aussi, les Titans qui ont joué contre les Eagles en fin de semaine, ça n'a pas vraiment très bien été. Ils ont quand même assez bien stoppé la course des Eagles. Mais les Eagles ont aussi stoppé la course. En fait, ont stoppé Derrick Henry. Puis, comme j'ai précisé à maintes reprises, je crois que si l'adversaire des Titans stoppe Derrick Henry, ça va faire qu'ils ne gagneront pas. En fait, faut que Derrick Henry ait une bonne game. Puis là, les Eagles ont complètement décimé la tertiaire, des Titans avec beaucoup au-dessus de près de 400 verges par la passe. Et de deux gros matchs. En fait, un gros match pour AJ Brown contre son ancienne équipe. Aussi coïncidence que après cette défaite-là, le directeur général des Titans s'est fait renvoyer. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou bien ça leur a fait trop mal de voir AJ Brown, leur ancien receveur étoile qui ne voulait pas payer énormément d'argent que les Eagles ont fait. Les décimes comme ça en fin de semaine. Et puis Devontae Smith aussi a eu une très bonne partie. Ce qui fait que les Eagles restent en première place dans la conférence. C'est sûr que les Vikings continuent de gagner malgré une performance assez douteuse, je dirais, contre les Jets. Les Jets aussi, ça n'a pas super bien été. C'est sûr que ça va mieux depuis qu'ils ont... décidé d'enlever Zach Wilson comme starter, puisque malgré son record, il y avait beaucoup de misère. Et puis, il essaie Mike White, que bien que peu d'expérience, eh bien, il est capable d'être tout ou rien, en fait. C'est ça que je ressens beaucoup du carrière des Jets, Mike White. Je trouve ça drôle, en fait. C'est soit qu'il joue super bien ou bien que c'est vraiment terrible. Donc, c'est très divertissant. Donc, les Vikings sont encore seulement une partie en arrière des Eagles pour la première place, justement, dans la conférence. En fait, je sais pas comment dire ça, c'est une game et demie, là, mais en fait, c'est pas une demi-game. Ce que je veux dire, c'est que même si, mettons, la semaine prochaine, les Eagles perdent, les Vikings gagnent, les Eagles seraient quand même en première place, même s'ils ont le même record, puisque une des défaites... quand ils se sont affrontés, en fait, les Eagles et les Vikings, les Eagles ont gagné. Donc, ils ont un certain avantage. Et aussi, une autre équipe qui continue de bien jouer, les Cowboys. Ils continuent à mettre de la pression sur les Eagles pour la première place dans la division et la première place dans la conférence. C'est sûr que jouer contre les Colts, c'est pas tout le plus gros défi du monde, mais quand même, ils ont pas mal plus ramassé que les Eagles l'ont fait il y a deux semaines, ouais, exactement. Donc, les Eagles sont à surveiller. Si je finis avec cette division-là, les Giants et puis les Commanders se sont affrontés à la fin de semaine et puis il y a eu une égalité, deuxième égalité de la saison. Donc, c'est sûr que c'est très dommage d'avoir des égalités. Mais je pense que la NFL aime bien ça. Ça pousse, je pense, ça motive les joueurs à essayer plus de choses en prolongation, justement, puisqu'ils ont une limite de temps et tout. Donc, s'il y avait infini de temps, en fait, pour justement, si ça serait le premier qui score un touchdown ou jusqu'à temps que quelqu'un fasse un stop, mettons, en défensive, je pense que tout le monde serait trop... ça ferait un peu comme les prolongations en série dans la LNH au hockey. Ça fait que c'est complètement un style différent de jeu qui est très, très conservateur et puis ça abattrait souvent le ballon. Donc, je pense qu'il y a quand même du positif à avoir la pression d'avoir des égalités. Et puis, c'est un peu mieux sur l'affiche de ceux-ci qui ne sont pas compensés de perdre en prolongation, contrairement au hockey. Ensuite, Aaron Rodgers a encore battu les Bears. Les Bears ont bien commencé, mais c'est reconnu que Aaron Rodgers serait comme le papa, justement, des Bears, puisque, étant dans leur division, ils s'affrontent au moins deux fois par année, puis Aaron Rodgers est vraiment le numéro de cette équipe-là. Et puis, il y a eu beaucoup de blagues et il domine du fait que Aaron Rodgers était vraiment le daron de les Bears. Et puis, ça a passé proche, mais il s'en est sorti. Puis, Justin Fields a encore fait une très longue course, ce qui est assez impressionnant. C'est sûr que ça me fait de la peine de voir qu'il est vraiment tout seul dans cette équipe-là. Mais de voir, c'est vraiment incroyable parce qu'on voit des courses d'au-dessus de 50 verges en tant que corps arrière pour des touchés. Là, c'est assez... c'est le fun à voir. Là, c'est divertissant. Ensuite aussi, quelque chose que je comprends pas qui est arrivé en fin de semaine. En fait, c'est pas que je comprends pas, c'est que je comprends pas pourquoi les Chiefs ne sont pas capables de battre les Bengals dans les dernières années. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, les Chiefs avaient perdu contre les Bengals en saison régulière dans un match de fou où Ja'Marr Chase avait été excellent. Et puis dans les séries, justement, c'est les Bengals qui ont arrêté le parcours des Chiefs pour se rendre jusqu'au Super Bowl. Encore une fois, c'était comme un rematch cette année, là, en fin de semaine, qu'il y avait entre les Bengals et les Chiefs. Et puis les Bengals ont encore trouvé une façon de gagner malgré que Joe Mixon n'était pas présent et ça fait qu'il a toute qu'une saison en tant que porteur. Et puis c'était le retour de Ja'Marr Chase après plusieurs semaines avec sa blessure. C'est sûr que le remplaçant de Joe Mixon, P. Ryan, a très très bien fait. Et en fait, ça fait depuis que Joe Mixon est blessé, P. Ryan joue extrêmement bien. Mais de là à battre les Chiefs trois fois d'affilée dans les dernières années, c'est quand même impressionnant. Est-ce que c'est vraiment Joe Burrow qui avec son sang-froid qui fait la différence contre Patrick Mahomes et les Chiefs? À voir. Ce qu'il y a eu, les Bills, on a eu une partie qui était quand même correcte comme jeudi soir. C'est sûr que les Patriots ont une offensive qui peut stagner énormément. Et puis, il y a eu du drama, justement, du côté des Patriots. On peut voir des vidéos où Mac Jones est très mécontent des jeux qui sont appelés par le coordonnateur offensif, Matt Patricia. Matt Patricia est aussi un entraîneur assez controversé. En fait, il n'a rien fait de catastrophique en dehors du terrain de football, mais en tant que qu'entraîneur, son séjour avec les Lions a été complètement pourri. Et là, il est revenu avec les Patriots puisque c'est un homme de Bill Belichick. Et ça montre que bien que les outils pour pour Mac Jones ne sont pas excellents. Il y a quand même des tensions du côté des Patriots. Et là, ça fait deux défaites d'affilée. Deux jeudis soirs d'affilée qui jouent à cause que l'autre semaine d'avant, ils ont perdu contre les Vikings au Thanksgiving, où il y a eu trois parties, puisque c'est très populaire le Thanksgiving. Et puis le football, ça représente bien les États-Unis, tout comme le Thanksgiving qui fête très, très fort, contrairement à nous. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça fait deux défaites d'affilée qui rendent leur position très, très, très difficile à rentrer dans les séries, puisqu'ils vont avoir encore des parties de division qui leur restent, donc qui est dans leur division, qui a des équipes assez solides. Oui, les Bills aussi, malgré deux victoires d'affilée, eux aussi, deux fois jeudi, c'est quand même assez difficile. Josh Allen n'est plus le Josh Allen qu'on prônait tout et qu'on pensait qu'il était MVP au début de l'année. Et il gagne, mais c'est toujours des parties assez serrées. Et puis, j'ai hâte de voir si... Mais ça a fait ça l'année passée aussi, donc ça ne m'inquiète pas vraiment. Les Bills montraient des étincelles qui pouvaient être instoppables. Et là, à un moment donné, ils ont commencé à perdre des matchs bizarres, genre comme contre les Jaguars l'année passée. Puis là, ils sont arrivés en playoff, puis ils ont complètement anéanti les Patriots, puis ils ont joué toute qu'une partie contre les Chiefs, qui ont perdu justement le fameux 13 secondes de trop qu'ils ont laissé. Mais je pense que ça va faire la même chose pour les Bills. L'acquisition, je tiens à dire que l'acquisition de Von Miller, qui est malheureusement blessé pour le moment, porte fruit, malgré que c'est un énorme montant d'argent qu'ils leur ont donné et qu'il est quand même vieux niveau football, en fait. Il joue très, très bien. Et puis, je pense que, comme on a pu voir l'année passée, Von Miller dans les séries, il a quand même un très, très grand impact, malgré que, même s'il n'est pas longtemps dans un nouveau système, ce qu'il a fait avec les Rams. Aussi, un autre quelque chose d'autre d'important, le retour de Deshaun Watson des Browns qui ont pas perdu de temps. En fait, Watson qui a été suspendu pour ce qu'il a fait en dehors du terrain, et puis qu'il a pu pratiquer une semaine, et puis malgré les efforts et le leadership et le respect à Jacoby Brissett, en fait, qui a montré beaucoup de caractère. Et puis, il a quand même bien joué, là. C'est sûr que c'était pas un All-Star, là, mais il a quand même très, très bien fait dans la situation qu'il était. Puis, il a été tout qu'un leader. Et puis, il a cédé sa place à Deshaun Watson, qui est, en tant que joueur de football, qui a énormément de talent. C'est sûr qu'en fin de semaine, c'était très, très difficile. Même moi, j'ai fait l'erreur de penser que Deshaun Watson, après 2 ans sans jouer au football, allait être le même qu'il était avant d'avoir sa pause. Mais je dis ça parce que dans une de mes lignes fantasy, j'ai eu la brillante idée de le mettre partant à la place de Justin Herbert, donc que je regrette fortement, puisqu'il m'a fait 2 points, je pense, ou 4, de quoi de même. C'était pas fameux. Ils ont quand même gagné, mais c'était contre les Texans qui sont absolument... Et c'est dur à regarder, c'est très dommage. Moi qui étais très... qui s'est trompé en disant que Davis Mills était peut-être un bon carrière. Cette année, c'était vraiment, mais vraiment pas bon. Même... T'sais, quand tu te fais remplacer par Kyle Allen, là, c'est qu'il y a quelque chose qui... Dans une situation qu'ils doivent... Ben, pas qu'ils doivent, mais qu'ils se battent pour le premier choix au repêchage, si tu te fais bencher en tant que jeune carrière qui a de l'espoir, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Une comparaison que j'ai faite justement en pensant à ça, je trouve que la situation de Davis Mills ressemble beaucoup à la situation de Sam Darnold. Un carrière avec beaucoup de talent, et puis il est tellement mauvais que tu veux même plus l'essayer malgré son potentiel, tellement que ses performances y font dur. Aussi, il n'y a pas eu vraiment d'autres surprises. En fait, la fin de semaine qui vient de passer, mais l'autre d'avant, dont je n'ai pas parlé. Les Jaguars ont battu les Ravens avec Lamar Jackson, qui est en ce moment qui s'est blessé malheureusement en fin de semaine, mais il y a deux semaines, les Ravens perdent contre les Jaguars. Quand même une très belle fin de match, une belle remontée, dernière séquence pour Trevor Lawrence et son équipe. Et bien sûr, le coach Doug Peterson, l'ancien des Gaules que je suis donc très familier avec, est allé pour le 2 points quand il restait quelques secondes, pour qui est un risque et puis qui a donné la victoire 28-27 contre les Ravens il y a deux semaines, qui a fait très très mal aux Ravens puisque les Bengals jouent très 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 bien en fait. Et puis ça fait que maintenant le record... sont égales, puisque de peine et de misère, les Ravens s'en sont sortis contre les Broncos en fin de semaine. C'était vraiment pas fameux. Oui, Lamar Jackson s'est blessé à la cheville, mais c'est qui est pas la blessure la plus grave au niveau football, mais pour Lamar Jackson, qui utilise beaucoup de ses jambes et puis qu'il y a beaucoup de moves et d'athlétisme, je pense que ça peut leur faire très, très mal. Puis ils ont gagné vraiment de peine et misère en fin de partie. Tyler Huntley, ouais, c'est ça son nom. Il a joué quelques parties justement l'année passée quand Lamar Jackson aussi était blessé. Il a fait une petite course pour rentrer quand il restait quelques secondes pour donner la victoire aux Ravens contre les Broncos qui ont vraiment beaucoup de difficultés. J'ai regardé quelques power rankings comme la liste des équipes faites par des analystes, pas juste avec le record, mais justement avec qui pense qui est la meilleure équipe. Et puis les Broncos sont proches d'être derniers. Je pense que dans certaines, ils étaient 30 sur 32, là, des choses comme ça. Donc ça va vraiment pas bien pour eux. Aussi les Jaguars, mais justement une surprise en surprenant justement les Ravens comme ça. Je pensais que ça allait être une meilleure game contre les Lions cette semaine pour les Jaguars. Et puis, malheureusement, les Lions les ont anéantis. Les Lions, c'est malgré leur record de 5-7, ça va quand même bien dans les dernières semaines. À part la défaite contre les Patriots et puis contre les Cowboys au début de l'année, les Lions ont joué... majoritairement des parties assez serrées. Je pense qu'il y a quand même du positif à voir. C'est sûr que dans la NFL, faut que tu gagnes, faut que tu sois capable de finir des parties. C'est sûr qu'avec Jared Goff, c'est pas le plus évident, mais il fait bien, Jared Goff. C'est juste qu'en fin de partie, c'est peut-être pas le carrière auquel je ferais le plus confiance. Et puis là, d'anéantir les Jaguars comme ça, c'est sûr que on voit du positif. Une grosse game, justement, la semaine prochaine pour les Lions contre les Vikings. Game de division à Détroit. Les Vikings ont plus de misère, tandis que les Lions, je pense, qui s'en vont dans la bonne direction. Les Steelers ont enfin gagné. Aussi, est-ce que je considère ça comme une surprise? Je sais pas. Là, ils jouent contre les Falcons. Est-ce que Kenny Pickett n'a pas lancé l'interception? Il a lancé pour moins de 200 verges, malheureusement. Mais bon, une victoire, c'est une victoire, comme j'ai dit. Et puis, je tiens à préciser que, avant de partir en pause, cette fin de semaine-là, mais l'autre d'avant, un match de fou entre les Raiders et les Seahawks, où Josh Jacobs a accumulé plus de 300 verges au total, ce qui est absolument... incroyable, qui en plus a fini une course de plus de 80 verges en prolongation. Donc, c'était quand même moi qui l'avais en fantasy, j'étais assez content de voir ça. Donc, on va aller en pause avec quelques musiques après aussi, puis je vous reviens après. Merci.
Sur une distance de 20 verges, la Coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Les capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on te parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur.
Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez maintenant LSDJ 7, présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
The following program is disturbing.
Crash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
Découte!
Jexcel.com recrute des centaines de tutrices et tuteurs pour soutenir tous les élèves dans leur parcours académique. Depuis 2014, Jexcel.com est un service de tutorat et accompagne des milliers de jeunes du primaire et du secondaire. L'aide aux devoirs Jexcel.com, c'est un emploi très stimulant, valorisant et gratifiant, avec un horaire flexible et stable et un salaire compétitif. Que ce soit en personne ou en ligne, joins-toi à l'équipe de tuteurs et tutrices de Jexcel.com. Postule dès maintenant au jexcelle.com.
Thank you.
viennent enfiler leur parure pour qu'au coucher du jour les amants apposent leur signature, que les ombres des amours viennent déposer leurs armures pour qu'emplis de bravoure les visages deviennent.
Bonjour à Conduite Antisportive, à Chiz 94.3. Suivant les pauses publicitaires, c'était la chanson Magenta de Dehors les Feux, suivie de Césario par Gustafsson. Maintenant, je viens de recevoir quelques nouvelles justement de la NFL, donc je vais discuter de ça avec vous. Premièrement, pour eux qui veulent qui sont dans les paris sportifs, l'entraîneur des Eagles, c'est Nick Sirianni, est rendu le favori. Donc c'est un risque quand même, puisque malgré que son équipe a le meilleur record dans la ligue, c'est sûr que le personnel en joue beaucoup. Le personnel de joueurs, je veux dire, pas seulement le personnel d'entraîneur. Donc c'est ça. Aussi, il y a maintenant, vu qu'on approche de la fin de saison, il y a déjà quelques scénarios où certaines équipes peuvent s'assurer une place dans les séries, bien qu'il reste quand même quelques parties. Premièrement, les Chiefs pourraient assurer de gagner leur division, la AFC West, s'ils gagnent en fin de semaine et que les Chargers perdent. Donc, ça leur ferait du bien. Ensuite, les Vikings aussi ont une chance s'ils gagnent, ou s'ils ont une égalité contre les Lions de Détroit en fin de semaine. Et puis, les Eagles peuvent avoir un spot dans les playoffs s'ils gagnent, ou ils ont une égalité, ou si les sinon, il faut que les 49ers et les Seahawks perdent. Voilà, c'est sûr que c'est très, très je veux dire, c'est dans longtemps quand même les séries, mais il y a déjà des équipes que, vu qu'ils font très bien, ils peuvent s'assurer d'avoir une place dans les séries. Une autre nouvelle aussi, c'est que tout ce qui concerne le repêchage, je sais pas si vous êtes au courant, mais vu que les Eagles, même s'ils ont le meilleur record de la NFL en ce moment, vont quand même avoir un choix repêchage assez haut, puisque L'année passée, ils ont fait un échange contre les Saints pour avoir pour justement leur céder leur choix de première ronde qu'ils avaient en abondance l'année passée pour en avoir un cette année. Et puis, ça veut dire que les Eagles ont le choix de repêchage des Saints cette année qui ont un record que c'est une saison difficile et puis ils viennent de perdre encore contre les Bucks en fin de semaine. Donc, ça fait qu'ils vont avoir... pour le moment, ils ont un pick, un choix au fait un repêchage dans le top 5, même s'ils finissent premier de la Ligue, en tout cas cette année. Donc, ça augure très bien pour les Eagles, et c'est dommage pour les Saints, mais c'est des risques qu'il y a à prendre dans des lignes comme ça. Aussi, un peu dans la même situation, les Seahawks avaient échangé, bien sûr, Russell Wilson aux Broncos dans un assez gros échange en donnant plusieurs choix de repêchage. Et puis, ça va être le pic, le choix de repêchage des Seahawks, justement, qui ont eu dans cet échange-là, va être le plus haut qu'ils ont eu dans les 26 dernières années, puisque Russell Wilson et les Broncos ont beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, deux échanges que deux équipes sont très satisfaites et puis deux autres qui se grattent la tête et puis qui aimeraient ça revenir dans le passé et ne pas faire ça. Aussi, Carson Wentz, qui était le QB partant des Commanders, qui est blessé en ce moment, va avoir le rôle de remplaçant pour Tyler Heinicke, puisque Tyler Heinicke fait très, très bien. Donc, même quand il va revenir de blessure, le coach, il fait plus confiance à Tyler Heinicke qui joue, en fait, peut-être pas statistiquement, mais niveau fiche, depuis que Tyler Heinicke a pris le poste de partant, ça va beaucoup mieux pour les Commanders. Et puis, ils sont très, très, très près d'avoir un poste, d'être dans les séries pour l'instant. Donc, on ne change pas une formule gagnante, comme on dit. Aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé en fin de semaine, en fait. Est-ce que la performance de toi, qui était un des favoris pour le joueur le plus utile, cette performance-là, est-ce que ça enlève toutes ses chances? Puisque pour être le joueur le plus utile, c'est quand même assez difficile. Et puis, juste une game, justement, comme ça, où c'était pas complètement terrible, mais ça fait que les autres joueurs, justement, qui sont dans la course, comme peut-être Jalen Hurts et Patrick Mahomes, n'ont pas eu ce genre de partie-là qui pourrait enlever les chances comme ça. Donc, peut-être que c'est ça, que je pense que ses chances sont finies. En plus, il a été blessé et tout. Donc, il y a une pente qui avait remonté qui s'est quand même... Mais je suis sûr que rendu dans des ligues comme ça, justement, je pense vraiment pas que c'est important ou c'est quelque chose qui trotte dans la tête des joueurs. En fait, j'espère pas. Donc, ça serait quand même assez toxique comme environnement dans le vestiaire. Aussi, j'ai de lire un article pendant la pause qui disent que justement qu'il y en a qui assurent justement que... Ils pensent, ils sont vraiment sûrs que les Bengals sont meilleurs que les Chiefs. J'irais pas jusqu'à dire ça, mais c'est sûr qu'ils ont leur numéro dans les dernières années. Aussi, comme j'ai parlé, il y en a qui disent que avec la perte de Jimmy Garoppolo, que c'est vraiment fini pour les 49ers. Aussi, il y en a un autre, peut-être un peu plus controversé, que les Cowboys seraient la meilleure équipe de la conférence malgré qu'ils sont en arrière de quelques parties des Eagles. C'est quelque chose que, bien sûr, je ne serais pas d'accord pour plusieurs raisons, mais c'est sûr que les Cowboys jouent assez bien récemment. Leur défensive, il y a quelques problèmes à mon avis. C'est sûr que le duo Tony Pollard, que d'après moi, il joue beaucoup mieux qu'Ezekiel Elliott. Et Ezekiel Elliott, justement, fait beaucoup de dommages. Dak Prescott joue très, très bien. C'est sûr que leur receveur, il y a encore peut-être des trous. Mais bon, je peux pas leur enlever crédit. Mais de dire qu'ils sont meilleurs que les Eagles, je ne crois pas. En fait, ils vont avoir une partie bientôt ces deux équipes-là, puisqu'ils ont juste joué une fois contre. C'est ça en fin de semaine? Non, non, les, en fin de semaine, non, c'est à la fin de l'année. Ouais. Avant-dernière game, ils vont jouer contre. Et puis, ça veut dire que malgré leur bon record, ces deux équipes-là vont devoir se battre dans les dernières parties de l'année pour assurer leur spot. Aussi, un autre point qui est quand même assez choquant, c'est que ça va peut-être être la première fois que Mike Tomlin, l'entraîneur depuis beaucoup d'années des Steelers, va avoir la première fois qu'il va avoir une saison avec un record négatif, en fait, qu'il va perdre plus de games qu'il en gagne. Je pense que c'était... chapeau à lui pour tout ça, mais il y a eu des bonnes équipes avec lui, et là, c'est vraiment pas... même si... Si c'est un très bon coach et puis qui a gagné plusieurs parties avec le personnel qu'il a, et puis non seulement son personnel de joueur, mais son personnel d'entraîneur aussi, que selon plusieurs analystes et puis fans, laisse à désirer. Donc, il y a ça. Aussi d'autres choses qui pourraient faire questionner. Est-ce que les Giants pourraient finir aussi fort qu'ils ont commencé, en fait? C'est sûr que tout le monde est conscient que... en fait, tous les fans de football sont conscients que les Giants ont très, très bien parti leur début de saison. Et là, dans les dernières semaines, ça a été... ils ont peut-être montré des lacunes qu'on s'attendait... qui étaient sûrs de sortir un jour. Donc, je pense que ça leur fait plus mal qu'on pense. Et puis là, ils ont comme une pente à remonter pour finir fort. Puis je crois pas que ça peut être possible, puisque je pense que leur manque de personnel et de talent, et aussi leur manque d'expérience, un nouveau coach aussi, va vraiment leur faire mal. En plus, s'ils jouent contre les Eagles en fin de semaine, qui est quand même une équipe assez solide. Aussi, justement, j'ai parlé un peu de la situation de Lamar et tout. Est-ce que, justement... Je pense que tout le monde est conscient que même si Huntley, le corps arrière remplaçant des Ravens, a un peu le même style que Lamar Jackson, il est très habile avec ses jambes, mais il n'est aucunement au même niveau, en tout cas talent et production, que Lamar. Donc, ça repose vraiment sur, selon plusieurs analystes, et sur, ce que je pense aussi, c'est que ça repose vraiment sur leur défense, est-ce qu'ils vont être capables de justement de tenir le fort pendant que Lamar Jackson n'est pas là, pour au moins laisser une chance au Ravens, justement, et aux carrières remplaçant de gagner des parties qui sont fort importantes dans le dernier stretch de cette saison. Aussi, c'est drôle que je vois ça, parce que j'y ai pensé souvent. Est-ce que les Raiders, malgré leur record qui est assez décevant, avec tous les espoirs qu'on avait, 5-7, serait pas une des meilleures équipes, justement, avec ce record-là? Pas qu'ils vont revenir et qu'ils vont faire les séries, mais plus des parties, justement, qui pourraient briser les rêves d'autres équipes. C'est sûr que ils ont du talent, ils peuvent être explosifs. Ils ont aussi croulé sur la pression quelques fois cette année. Mais avec des joueurs comme Devante Adams, qui est absolument incroyable avec cette nouvelle équipe, les dernières games, les dernières parties, en fait, c'est encore plus d'un touchdown et au-dessus de 100 verges, je crois, dans les trois dernières victoires. C'est assez impressionnant. Puis c'est pas contre n'importe qui non plus qui ont gagné. Gagner contre les Chargers dans leur division, après les Seahawks, que ça allait bien. C'est sûr de perdre contre les... ils ont un tough, des parties assez dures, mais quand même, je pense que c'est une des équipes peut-être à regarder l'année prochaine s'ils gardent... peut-être pas le même personnel d'entraîneur, parce que moi, je crois pas en... je crois pas tellement en Josh McDaniels, qui est l'ancien coordonnateur offensif justement des Patriots, qui a eu justement une opportunité comme ça avec les Broncos et Tim Tebow dans le passé, puis ça avait été autant, c'est pas, je dirais pas médiocre, là, mais que ça allait, que c'était une expérience, je dirais, puis que qui était justement reconnu pour justement plus être justement un très très bon coordonnateur offensif, mais ne pas être un très très bon entraîneur. Et là, les Raiders qui leur donnent un contrat assez lucratif, je pense que ça m'a pas surpris, parce que c'est un move que cette équipe là ferait après ce qu'ils ont fait avec Gruden il y a pas très longtemps. Donc mais ça reste à voir. C'est sûr qu'ils ont le personnel. En plus, ils jouent très, très bien. Ils sortent leur tight end, Darren Waller, qui est blessé depuis un assez beau. Ça fait longtemps que je l'ai vu. C'est triste pour cette équipe-là et aussi pour les gens qui l'ont en fantasy. La semaine prochaine, j'ai déjà parlé du match des Lions et des Vikings, qui était fort à regarder aussi, malgré que les Steelers ont beaucoup, beaucoup de difficultés cette année. La perte de Lamar Jackson et de jouer contre les Ravens, qui est une des plus grandes rivalités de la NFL depuis plusieurs années, est un autre match qui pourrait être fort intéressant à regarder, en plus à Pittsburgh. Donc on ne sait pas ce qui va arriver, surtout que les Ravens sont dans une situation où ils ne doivent pas plus vraiment perdre pour s'assurer de rester premier dans leur division. Un peu dans la même veine, les deux autres équipes de cette division-là, les Browns et les Bengals, s'affrontent. Oui, les Bengals montrent clairement qu'ils seraient meilleurs que les Browns, mais dans les dernières années, même l'année passée, dans tout ce qu'ils ont fait et leur super parcours jusqu'au Super Bowl, les Bengals avaient perdu deux fois contre les Browns en saison régulière. Et là, cette année aussi, ils se sont fait complètement anéantir justement contre les Browns dans leur premier affrontement. Donc, est-ce que ça va encore arriver ou les Bengals ont vraiment montré leur supériorité si on regarde les papiers et puis le personnel? Aussi, les Jets contre les Bills, une autre partie de... En fait, c'est souvent ça. Il y a beaucoup de parties de division en fin d'année comme ça, ce qui rend les parties très, très excitantes. Et puis, les dernières semaines sont, comme je dirais, un must-watch pour n'importe qui est fan de la NFL. Jets-Bills, c'est sûr que les deux équipes ont quand même un bon record. Et puis, que dans les dernières semaines, ça a été plus difficile qu'au début de l'année. Mais je pense que ça serait la bonne partie pour les Bills de remontrer qu'ils peuvent être instoppables et la meilleure équipe de la Ligue, ou du moins presque, contre les Jets. Aussi, Eagles-Giants, un autre game de division. C'est sûr que les Giants ont un bon record et tout, mais je vois pas comment ils pourraient battre les Eagles dans cette situation-là. Ensuite... les Buccaneers contre les 49ers, pas une game de division, mais quand même toute qu'une partie. Les Buccaneers qui sont premiers de leur division, les 49ers aussi. Buccaneers qui ont bien sûr leur premier carrière qui est Tom Brady, mais c'est vraiment pas fameux leur performance cette année contre justement les 49ers qu'on sait toujours pas encore c'est quoi la décision qu'ils vont prendre comme qui mettent pour corps arrière. Donc, à voir, ça va être intéressant. C'est sûr que la défense des 49ers, justement, pourrait carry, justement, pourrait prendre sur leur dos, prendre toute la pression pour au moins laisser une chance si l'attaque des 49ers est complètement... complètement stoppé avec ce corps arrière-là. Mais même là, avec Christian McCaffrey, tu pourrais juste y donner le ballon, peut-être... en fait, pas trop, là, parce qu'il est tellement fragile, là. Mais si tu lui donnes le ballon correctement, ou à Deebo Samuel, si tu es capable de lancer un check down, ce que Jimmy Garoppolo est très, très bon pour faire... Je pense que les 49ers vont être capables de se débrouiller pour la fin de saison. Je pense qu'en série, ça va être une autre chose. Mais bon, un match à regarder, ce dimanche. Aussi, Dolphin Chargers, les batailles des corps arrière, la fameuse bataille entre toi et Justin Herbert qui ont été pris par un choix de différence, je crois, un choix ou deux de différence dans une draft il y a quelques années. Dans les dernières années, je pense que Justin Herbert a montré qu'il était vraiment le meilleur choix comparé à Tua qui avait plusieurs difficultés, mais cette année, ça s'est beaucoup, beaucoup resserré. Je pense que Justin Herbert, malgré que ses receveurs ont été blessés énormément cette année, il a montré... il n'a pas mal fait, je dirais, mais je pense que Tua a vraiment élevé son jeu d'un niveau, en fait. C'est sûr que quand Jalen Waddle, qui est un receveur exceptionnel, et puis Tyreek Hill, qui est justement le meneur pour les verges captées à la passe, c'est sûr que ça aide. Mais tu sais, tout le monde questionnait justement le bras de Tua, s'il allait être capable de lancer des bombes à Tyreek Hill qui est en bon. Et puis c'est sûr que la partie en fin de semaine des Dolphins n'était pas super pour Tua, mais quand même, il a quand même fait des gros jeux justement à Tyreek Hill, et Jalen Waddle n'était pas là, comme j'ai mentionné précédemment. Donc je pense que Tua cette année a eu une meilleure saison que Justin Herbert. C'est sûr que c'est dur à dire, parce que si on inversait les rôles, justement, si on mettait Tua dans les Chargers, pour les Chargers, et puis Justin Herbert pour les Dolphins, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? En fait, je pense que les Dolphins seraient encore meilleurs. Donc c'est pour ça que c'est dur à dire, mais c'est quand même une bataille dont les fans de ces équipes-là s'ostinent beaucoup sur les internets. Bon, je pense que j'ai fait un bon tour de la NFL. Puis, je vous remercie toutes d'avoir écouté Conditance Sportive avec moi, HS94.3. Et puis, on se revoit bientôt. Puis, bonne fin de semaine de football.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
En passant par des films marquants de films aux paroles de chansons remplies de meaning, Pop Analyse, on est une émission où on décortique des œuvres créatives et les nouvelles du monde de la pop.
On est là pour discuter et donner nos impressions sur de multiples sujets, mais surtout pour t'apprendre des fun facts sur le monde créatif qui t'entoure et que tu te couches moins niaiseux.
En passant par des scènes marquantes de films aux paroles de chansons remplies de meaning, Pop Analyse, on est une émission où on décortique des œuvres créatives et les nouvelles du monde de la pop.
Allô tout le monde, c'est Mathieu Dufour, fier porte-parole de l'Opération Nez Rouge. C'était impossible de faire une pub radio sans que je fasse une chanson, fait que ça part! Mario est ben gorlo, José est sur le party, Robert y voit plus clair, y'a personne qui peut chauffer. Le Carole à bénévole qui débarque en fin de soirée pour les raccompagner en toute sécurité. 1-8-6-6, Desjardins! Faites-moi confiance, la gang, venez l'essayer. Opération Nez Rouge, là, vous pourrez plus vous en passer. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
Ici Gala Dionne pour Pomme Magazine, une émission culturelle complémentaire au magazine papier de Pomme. Dans cette émission, j'aborde les nouveautés culturelles, plus particulièrement celles de la ville de Québec. Attendez-vous à beaucoup de musique émergente, des entrevues, des chroniques et des réflexions sur les principaux enjeux culturels. Votre rendez-vous culturel, c'est à tous les mercredis sur les ondes de Chiz 94.3 de 14h à 15h.
Oh.